parler. La famille, donc, peut-être 2 ou 3 générations ce matin, réunies, je sais pas, moi, les grands-pères, les grands-parents, les parents, et puis peut-être les enfants, voire les petits-enfants. Et l'idée du culte en commun, c'est une belle réalité parce que Dieu se réjouit, il est pour la famille. On en est convaincu, hein, ce matin, parce que nous sommes là dans ce lieu. On a passé quelques jours de vacances avec mon épouse dans un pays qui s'appelle la Suède, hein, ces pays nordiques, et qui ont une politique, en tout cas familiale. Alors, je ne sais pas si c'est réussi à tous les étages, mais où que vous alliez, dans quelque endroit que vous alliez, des musées, des magasins, tout est fait pour que la famille soit dans la même unité, parce que Dieu aime la famille. On m'a dit qu'il y aurait beaucoup d'enfants ce matin. Moi, je vois que l'église est remplie d'enfants. Voilà. Certains ont les cheveux blancs, d'autres n'en ont plus, etc. Mais on est tous des grands enfants. Il y a peut-être des enfants qui sont encore en vacances. Quels sont les enfants qui sont encore en vacances? Je vais voir le doigt que je vous vois. Ah, il y en a, hein, voilà. Il y en a encore quelques-uns? D'accord. Alors, ce matin, on va parler de 7 familles. Ça, c'est pour les plus vieux. Je sais pas si les jeunes aujourd'hui jouent au jeu des 7 familles. Ça vous dit quelque chose, les enfants? Oui? Ah, quand même, hein? Les bons souvenirs d'école, hein? Là, il y avait la famille, les familles des sportifs, il y avait les familles nature, il y avait les familles quoi, les métiers, etc. On a tous joué aux 7 familles. Et là, moi, j'en ai trouvé 7 aussi. Elles sont là, cette famille. On va les découvrir ensemble, ces familles. Et j'aurai besoin à chaque fois d'un enfant pour venir découvrir ensemble, eh bien, les familles. Alors, elles sont un peu particulières, hein, ces cartes, vous les avez vues, hein. C'est parce que j'ai des lunettes, je deviens vieux, donc voilà, c'est des grosses cartes à jouer, là, au moins, hein, voilà. Alors, on va découvrir la première famille. Qui veut venir m'aider à découvrir la première famille? Allez, un courageux, un enfant de moins de 12 ans, voilà. Non, non, parce que je vous connais, hein. Allez, qui veut y aller? Soyez pas timide. Tu veux venir découvrir la première famille? Quel âge? Ouais, mais t'as mal entendu, j'avais dit en 16 ans. Bien sourd déjà, toi, hein? Celle-là, on va commencer. Et tu vas l'exposer là devant, voilà. Tu vas exposer cette famille, voilà. Tu vas la retourner, alors, tu vas la montrer au public, hein. Alors, c'est la famille comment? La famille Patatras. Ça commence bien. Allez, vas-y. Donc, ça, c'est le fils. Oh, tu peux les retourner toutes, voilà. Oula, ça, c'est quoi? Ah, la fille, les casse-cou aussi, hein. La famille Patatras, voilà. On a. La mère, ouais, pas mal la mère, hein? Ouais. La famille Patatras. Oh! Ah, le père, eh. Casse-cou, je pense. Et puis, attendez, c'est pas fini, hein? C'est pas fini! Ah, la grand-mère, c'est la totale presque, hein, la grand-mère, hein? La pauvre grand-mère. Et puis, on a. Ah! Il a glissé sur quoi? La peau de banane, hein. Vous connaissez la peau de banane, hein? Voilà. Mais si, bah tu peux la remettre là. Cette famille Patatras, la famille Patatras. Vous connaissez cette famille Patatras? Peut-être que vous en faites partie un petit peu de temps en temps de cette famille Patatras, hein. Cette famille, vous savez, où souvent dans la famille, on ne sait pas trop pourquoi il y a des accidents, il y a des problèmes, il y a des épreuves qui sont difficiles. Et c'est pas toujours évident de répondre à cette question, mais pourquoi notre famille? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors il y en a qui se disent, je suis né sous une mauvaise étoile. D'autres se disent, c'est le karma. D'autres vous disent, c'est l'effet boomerang. Ça part et ça revient, etc. Enfin, on a tous nos explications, mais quoi qu'on en dise, c'est quand même une famille qui est éprouvée. C'est une famille là aussi, eh bien, qui souffre. C'est une famille qui est en difficulté. Et c'est pas toujours facile, je le répète, d'apporter une réponse comme ça, hein, de but en blanc. La Bible dit quand même ceci, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais, parce qu'il y a un mais, et là c'est un bon mais, l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi cette parole? Parce que ça peut être paradoxal, hein? Ça veut dire que même dans le malheur, même si je fais partie de cette famille Patatras, bien Dieu ne permettra pas que ces malheurs atteignent ma foi, découragent ma joie, me séparent de sa présence. Il y a des limites. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant de 5 ans, c'est dans la Bible. Il a un drôle de nom, hein. S'il y a des dames qui attendent un enfant, Méphibosheth. C'est pas mal, mais c'est original en tout cas, hein. Méphibosheth. Et Méphibosheth, il a peut-être 3-4 ans à peine, etc. Et puis là, il y a des soldats qui veulent venir faire du mal à toute la famille. Alors la nourrice qui est protectrice va prendre Méphibosheth, va s'enfuir, et puis malheureusement, elle va perdre l'équilibre, elle va tomber, et puis le pauvre Méphibosheth va avoir les deux chevilles brisées, enfin les jambes brisées, et toute sa vie, eh bien, ça va être compliqué pour lui, hein. Imaginez à 5 ans ne pas pouvoir grimper à un arbre, à un cerisier, à un pommier, etc. Hein, imaginez là aussi dans quel état il sera lorsque les autres joueront à côté, et cet enfant de 5 ans va vivre un véritable drame. Et puis, il va se replier certainement sur lui-même, il n'est pas comme les autres, on lui fait quelques réflexions. Et pourtant, plusieurs années après, malgré son handicap, avec son handicap, il y a un roi qui va venir qui s'appelle David. Et le roi David, lui, ne va pas faire la différence entre quelqu'un qui est handicapé et quelqu'un qui n'est pas handicapé. La Bible nous dit qu'il va l'inviter chaque jour à la table du roi et l'appeler comme son fils. Il est comme le fils de David. C'est une belle image ce matin pour chacun d'entre nous, hein, quel que soit notre âge. C'est l'image où, si nous vivons parfois des malheurs, des drames, comme dans la famille Patatras, eh bien Dieu veut nous accueillir à sa table, dans sa présence, pour nous rappeler simplement qu'il nous aime tel que nous sommes, et que malgré les accidents de la vie qui sont parfois difficiles, c'est vrai, malgré les épreuves peut-être que vous vivez ce matin, eh bien Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il nous accueille à sa table. Et il y a aussi un beau verset qui nous dit ceci, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Peut-être que ce matin, quelques-uns sont reconnus dans cette famille patatras. Eh bien, sachez que en nous adressant au Seigneur, il saura nous entendre, nous écouter et nous accorder aussi sa grâce. Une deuxième famille. Allez. Ah, c'est parti. Donc la deuxième, c'est celle-là. Ouais, vas-y. Montre-nous celle-là. Tiens, mets-toi devant, bien devant. Tu montres au public. C'est la famille comment? Ronchon. Ah, vous connaissez? Ah, il y a eu quelques réactions dans le public là. Hein? La famille Ronchon, vous connaissez, hein? Alors vas-y. Ah, la famille Ronchon. Tiens, on a. Je vois les têtes. La fille. Ah oui, bah oui. On avait une petite fille comme ça dans le camping. Oui, exactement. La même petite blonde, c'était une Allemande. J'ai rien contre les Allemands, hein. Mais elle avait 5 ans et à chaque fois qu'il y avait un cri, quelque chose dans le camping, c'était quand. En plus en allemand, je vous ai pas, hein, c'était compliqué. On y va. Famille Ronchon. Oula. Ah, là, faut pas chercher maman là. Hein. Oula, papa. Ah, il a pris le porte-voix. Puis là. Ouh. Là, les carottes sont cuites, hein. Allez, parti là. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a, le papa, le grand-père? Ah ben, merci, la famille Ronchon, tu peux là. Alors, vous êtes pas reconnus, hein, la famille Ronchon, c'est celle qui habite juste en face de chez vous, à l'étage, bien entendu, hein, la famille Ronchon. C'est la famille Grincheux. Les Schtroumpfs, vous connaissez un petit peu? Il y en a un, il me semble. Hein. Il y a le Grincheux, etc. Je sais pas si dans les sept nains aussi, ils mettent toujours un Ronchon, un Grincheux, un quelqu'un, etc. Alors, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de soleil, il y a trop de pluie, c'est trop loin, c'est trop près, c'est trop petit, c'est trop grand. Enfin, on n'est jamais satisfait. Jamais, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose. J'ai trouvé un ronchon dans la Bible, c'est Jonas. Ah, Jonas, il n'était pas content après Dieu, hein. Il n'était pas content après Dieu. Il n'était pas content après que Dieu ait béni cette ville, etc. Il lui dit, je savais, Seigneur, je savais que hein, tu leur ferais du bien. C'était un ronchon. C'était un ronchon. Et ça nous arrive de temps en temps. de temps en temps, bien sûr, à faire partie de cette famille. Une petite histoire, elle n'est pas dans la Bible, mais j'aime bien la raconter aussi. C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse, ou d'un roi et puis de sa petite fille, hein. C'est une princesse, elle a 18 ans, et pour faire plaisir donc à sa fille, hein, ce roi et cette reine vont lui offrir dans le palais royal un complexe nautique extraordinaire. Mieux qu'à, je sais plus, en Allemagne, il y en a un, là, avec des toboggans, avec des mouvements d'eau. Enfin, c'est extraordinaire, extraordinaire. Mais pour cela, le problème, c'est que comme le château, il est en haut du village, il faut amener de l'eau, et beaucoup d'eau. Alors, comme le roi et la reine sont aimés par son peuple, ils vont demander à chacun, eh bien, d'amener un petit peu d'eau pour remplir ce complexe, etc. et faire la surprise à la princesse. Et alors, tout le village est enthousiasmé parce qu'ils aiment le roi et le reine, sauf un. C'est le ronchon de service. C'est le grincheux. Ah, c'est trop haut. Ah, c'est trop lourd. Ah, il fait trop chaud. Ah, il fait trop froid, etc., etc. Et alors, eh bien, pendant une semaine, alors que le bassin se remplit, etc., eh bien, lui, eh bien, il est dans son coin et il boude. Ah, non, j'irai pas, tata. Et puis finalement, il se décide. Ah, ben, je vais y aller, hein. Je vais prendre un dé à coudre. Dé à coudre. Je vais le remplir avec un peu d'eau, puis là, ils verront l'effort que j'ai fait. Effectivement, notre grincheux, au dernier jour, il monte, et puis il verse devant tout le monde, bien sûr. Ah, voilà, hein, ça y est, j'ai accompli ma part. Hein, là. Et donc il redescend. Et puis le jour d'anniversaire de la princesse arrive, le royaume est en fête, etc. Et là, le roi et la reine invitent bien sûr tout le village à fêter, hein, cette inauguration extraordinaire de ce complexe nautique, on n'a jamais vu ça. Et donc, avec une consigne particulière, amenez les récipients avec lesquels vous êtes venu remplir le bassin. Bon, alors, certains arrivent avec leur tonneau, avec leur seau. Et le grincheux, hein, il faut encore que je monte mon un coup de la tête. Alors, grincheux, il monte. Et puis, donc, ils arrivent, le festin extraordinaire, tout le monde se baigne, profite, la princesse est aux anges. Et à la fin, bien, le roi et la reine invitent donc tous les invités du village à passer par une pièce, il y a une petite porte, et puis là donc de redescendre au village. Et là donc la porte s'ouvre, les gens entrent et puis ressortent mystérieusement. Et notre grincheux, il arrive, il se demande ce qui se passe. Il entend derrière, waouh, des cris de joie, tout le monde est heureux, passer par cette porte. Et alors, eh bien, une fois que le grincheux arrive, c'est à son tour, c'est le dernier. Ah, c'est toujours moi le dernier, ta-ta-ta-ta-ta. Et là, il rentre, et il y a un superbe garde qui lui dit, écoutez, bien maintenant, vous avez avec votre récipient le droit de prendre ce que vous voulez dans le trésor royal. Ce que vous voulez? Une aide à coudre. Même une pièce d'or ne rentre pas dedans. Voilà, notre grincheux de service. Quand on est grincheux, on passe à côté des réalités. On passe à côté de ce que Dieu veut nous offrir. Et ce matin, il y a une parole dans Philippiens qui nous dit ceci, 4:11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris. Le contentement, ça s'apprend. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, vous le savez, hein, même les enfants. Je veux une glace, je veux une glace. Ah, notre petite Allemande, là, au camping. Elle en a eu des glaces, hein, parce que en plus les parents ils cédaient, hein, elle en a eu des. Mais c'est pas comme ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et ce matin, Paul dira ceci, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je ne dis pas que tout est toujours facile, mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Hein, et laissons le Seigneur aussi travailler nos cœurs. Il y a une troisième famille qui découvrir avec nous une troisième famille. Allez. Comment je ferai appel aux plus de 16 ans? Quelqu'un? Ah, super. Tu vas venir avec moi et on va découvrir. Vas-y, tu viens ici. Mets là. Et puis on va découvrir celle-là. Tu arrives à lire ce qui est marqué dessus?
Famille Glouton.
Ah, c'est la famille Glouton. Pourquoi vous riez? Allez, montre. Oh, ça j'aime bien ça. C'est un. Bon, bah, mon cadeau. Vas-y, montre bien. Voilà. Ah, ben, ils ont tous des gâteaux, là. Famille Glouton, vas-y. Voilà. Eh ben, oui, ça, c'est la plaque de chocolat devant le film du dimanche soir. Voilà. Et puis. Ah, ben, là, la glace, ma petite fille, là, 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 avec sa glace. Famille Glouton, viens plus. Oh, et puis le fils. Voilà. Merci. Il y en a plus, hein. Tu peux reposer. La famille Glouton. La famille Glouton. Alors, c'est une famille quand même dans laquelle on mange plus que c'est nécessaire. Hein, vous avez bien vu, hein, on mange même quand on n'a pas faim. On mange tout le temps, tout ce qu'on trouve. Et ça devient ceci. Il y en a trop, bien sûr. Il y a certainement là aussi un souci. On ne veut pas caricaturer non plus, mais il y a certainement un souci. En tout cas, la Bible nous met en garde contre toutes sortes d'excès. Toutes sortes d'excès. Hein, que ce soit la nourriture, que ce soit la colère, la fureur, le comportement, tout ce qui est excessif, eh bien, peut nous conduire après dans des débordements. On le sait très bien. Hein, et la Bible nous parle, d'équilibre, en tout cas. Qu'arrive-t-il quand on fait un excès de vitesse? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se prend un PV. Voilà. Qu'arrive-t-il, les enfants, quand le soir, au lieu d'aller se coucher à 21h, eh bien, on veille sur notre portable, etc., jusqu'à 11h, minuit, voire 1h du matin, et que le lendemain, on va en classe. Qu'est-ce qui se passe en classe? Ben, on dort, ouais. Voilà, et on risque peut-être de prendre, je sais pas moi, quelque chose, un devoir supplémentaire parce qu'on dort. Les excès nous déséquilibrent, les excès nous poussent dans des situations parfois qui sont délicates. Saul de Tarse, c'était quelqu'un d'excessif. Il le dira, hein, dans Actes 26, 11, il disait ceci, il était excessif dans son zèle pour mettre les chrétiens donc en prison. Excessif dans sa fureur, il était excessif dans sa colère. Mais dans le même chapitre, il va dire ceci, peut-être qu'on se reconnaît tous, hein, quelque part ce matin, dans quelques excès. On dit, oh là là, là pourrait peut-être que j'arrive à me contrôler, que j'essaye en tout cas, parce que effectivement, c'est excessif. Bien, il dira ceci dans le même verset, mais grâce à l'aide de Dieu. Mais grâce à l'aide de Dieu. Un excès, par définition, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. C'est plus fort que nous. Et Saul de Tarse était excessif dans sa fureur. Il croyait bien faire, mais il était quand même excessif. Il va mettre chrétien en prison, etc. Et il va s'en rendre compte après, mais il va dire, mais grâce à l'aide de Dieu. Mais grâce à l'aide de Dieu. Ce matin, on a tous nos excès. Et on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Alors il nous faut l'aide de Dieu. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit grand-parent, etc., on a tous besoin de cette aide. Et Saul va la recevoir. Et dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu connaît nos excès. Dieu connaît bien parfois les limites qu'on peut franchir. Et il est simplement à notre disposition pour nous aider à contrôler, pour nous aider à devenir dans l'équilibre et ainsi à vivre une vie bien sûr plus équilibrée. Je crois que c'est important que ce matin, bien, le Seigneur nous rappelle ces choses afin qu'ils deviennent pour nous une source d'équilibre, quel que soit bien le type d'excès. Allez, on a encore quatre. Qui veut venir courir? La quatrième. Allez, viens avec moi. Donc c'est celle-là, hein. Celle-là on va les retourner, tac, c'est celle-là, vas-y, tu peux y aller. Alors, on a quelle famille? Oh c'est compliqué ça, c'est la famille Vadrouille. La famille Vadrouille, elle me l'a dit à l'oreille, mais voilà, je vous transfère. Vas-y, montre bien la famille Vadrouille. Alors, ça c'est le grand-père. Ah, il est équipé le papy, hein? Ouh, du scooter pour la mamie, la famille Vadrouille. Ça, c'est le père. Voilà. Le casque est important, les enfants, si vous faites du vélo, du roller et autre chose. La mère. Voilà, tranquille. Le petit colis à perles en trottinette, ça va, tout va bien. Et puis ça, c'est la fille, un peu casse-cou, en skate. Et puis, je crois qu'il y en a une dernière, non? On a fait tout? Voilà. Et puis le fiston, en vélo. Ah, il y a un frère qui vient souvent en vélo. Il est où là? Je l'ai vu tout à l'heure. Hein? Donc, voilà. Hein? Donc, avec le casque, c'est bien. Merci. Hein? La famille Vadrouille. Tu peux... La famille Vadrouille. La famille Vadrouille. Alors, la famille Vadrouille, toujours sur les routes, toujours en déplacement, ville en ville, de région en région, de pays en pays, de continent en continent, de la Terre à la Lune, à Mars. Non, là, on arrête là avant. Hein? Pour certains, c'est un mode de vie. Des gens du voyage, par exemple. Et oui, ils se déplacent, hein, de ville en ville, etc. Pour d'autres, c'est lié à leur profession. Il y a des militaires, il y a des carrières là aussi de hauts fonctionnaires où tous les 5 ans, bien il faut bouger. C'est pas toujours évident. Parfois, ce sont aussi des circonstances difficiles de la vie, des divorces, des séparations, des décès, la maladie, des études, etc. Et on bouge et on vadrouille. Alors. Quoi qu'il en soit, parce qu'on dit, waouh, ça doit être cool, hein, de voyager comme ça, de partir à droite, à gauche, de se refaire des copains, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ça peut quand même engendrer parfois de la solitude. On arrive à la rentrée en septembre, on connaît personne. On vient d'une autre classe, d'une autre région, on a un petit accent, on comprend pas toujours trop bien les autres. Ça peut aussi engendrer du rejet. Pense aux gens du voyage, hein. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des stéréotypes, mais penser un petit peu tous les jours, c'est de gagner un petit peu d'argent, avoir un endroit pour mettre la caravane, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et puis, ça peut de l'instabilité, voire de la crainte. Vous savez que Jésus, quand même, lui-même, va vivre ces moments d'itinérance pendant 3 ans avec ses disciples. Et il dira ceci même. Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Il était en voyage, était en itinérance, lui aussi, allait de ville en ville, de village en village. Et voilà pourquoi, ce matin, il comprend aussi ceux qui vivent de tels bouleversements parfois. Le rejet, la solitude, parce que nos parents, bien, par leur profession, nous conduisent ailleurs ou des situations difficiles. En tout cas, ce matin, Jésus connaît aussi le rejet, le mépris, la solitude, le sentiment d'être différent des autres, d'être inférieur aux autres, de ne pas pouvoir ainsi bien s'insérer dans le milieu où on est. Jésus connaît ce sentiment et il nous dit ceci dans Luc 12, 32, ne crains pas, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le berger, par définition, il est celui qui conduit son troupeau, hein, de pâturage en pâturage. Il est celui qui conduit donc ses brebis et il les fait changer, bien sûr, de coin. Il ne va pas les laisser pendant 1 an dans le même territoire. Ces brebis pourraient se dire, mais où est-ce qu'il nous conduit? Où est-ce qu'il nous conduit? Est-ce qu'on va trouver de l'eau? Est-ce qu'on va trouver des vers pâturages? C'est le bon berger qui connaît. Et ce matin, il y a peut-être aussi des bien-aimés qui ont ce sentiment de mépris, de rejet, d'instabilité, parce que la situation est la vôtre, elle est comme cela. Alors Jésus vous connaît. Jésus est celui qui stabilise les cœurs. Jésus est celui qui nous rassure. Jésus est celui qui nous conduit. Il ne nous trahira jamais. Amen. Il ne nous trahira jamais. Même si nous faisons partie, hein, de cette famille, des voyageurs, grande vadrouille, mais en tout cas, le Seigneur ce matin veut nous aider à nous rassurer, à nous rassurer. Allez, encore, trois familles. Qui est le suivant ou la suivante à nous faire couvrir? Vas-y, allez, viens. Allez, c'est celle-là. Allez, viens devant. Alors, pour nous découvrir, montre. Tourne comme ça, que tout le monde. Voilà, oui, mais nous. Alors, c'est la famille quoi? La famille numérique. Ah oui, numérique, vas-y. Alors, ça, c'est le papy. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le papy, là? Le papy. Oh, bah, il a un téléphone, c'est déjà pas mal, hein, parce que. Moi, j'ai déjà du mal avec le mien. Vas-y, montre-nous après. Tiens, je vais t'aider. Vas-y, on va le mettre là. Alors ça, c'est la mamie. Ah ben, je sais pas si ça existe encore, ça c'est si, si tu comprends plus comme ça. Elle est belle, hein, la famille. Allez, vas-y, tiens, on la met là. Alors, c'est là. Ah oui, ça c'est le papa, c'est le kink. Voilà, la cravate et puis l'ordinateur, super. Ensuite, on a la maman. Oh, elle doit avoir, je sais pas moi, une espèce d'iPhone, j'en sais rien ce qu'elle a. C'est marqué A. Une tablette. Après, l'homme, ça c'est le fils, c'est les années 90, ça, le joystick, ça n'existe plus, ça. Hein? Ça existe encore, un truc comme ça?
Ouais.
D'accord, oui, ah. Hein? Et puis, ah, oh, ouais, je crois que c'est un Walkman. Non, c'est pas un Walkman, hein, c'est un... Voilà, merci. Famille numérique. La famille numérique. Ah, moi, je l'aime bien, c'est la famille numérique. Hein. La famille numérique, alors là, la famille numérique, c'est la famille IT. Ils vivent dans la réalité virtuelle. Alors on a, j'ai lu qu'il y avait même de la réalité augmentée. Est-ce qu'il y en a de la diminuée? Non, ça n'existe pas. Ils sont déjà prêts pour la 6G. Ah, ils sont prêts, hein. Ils ont toutes les antennes, les machins, les trucs, etc. Ils sont conseillés par l'IA. L'intelligent. Ah oui, non, mais j'ai découvert ça, moi, hein, en faisant. L'IA. L'intelligence artificielle. C'est beau quand même, hein. Il se met place en exosquelette. Vous savez ce que c'est, un gros machin, hein, en exosquelette? Il ne mange que des produits de synthèse, bien sûr, hein, à base de pétrole lampant, enfin, quand c'est raffiné, c'est bon, hein. Vous n'avez jamais goûté? Moi non plus. En tout cas, pour cette famille, hein, le bonheur, c'est d'être branché, c'est d'être connecté. Le bonheur, bien sûr, oh, c'est... La liberté, la sécurité, le progrès, le confort. On a notre fille, notre Jean, ils ont installé une clim. Et ils étaient chez nous, ils me disaient, papa, maintenant avec mon engin, là, je règle la clim à distance. C'est extraordinaire. Nous, chez nous, on est obligé de mettre encore l'interrupteur pour avoir du chauffage. Mais à distance, à 5 000 km, ils peuvent régler leur clim. Bon, je sais pas à quoi ça leur sert, hein, mais bon, ça, c'est autre chose, hein. C'est un autre débat. Mais c'est la technologie, la liberté. Vous savez que, depuis qu'il y a eu la révolution numérique, il y a 2 tiers de la population mondiale qui est connectée sur Internet. Sachant qu'il y a 8 milliards de personnes, vous avez 10 secondes pour me dire 2 tiers, ça fait combien? Attention, moi j'ai les résultats. Moi j'ai 5,4. Bon, on a arrondi, hein. 5 milliards 4 de personnes qui sont connectées. On est con? Mais c'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, à votre avis, depuis que ces gens sont connectés, est-ce que le monde va mieux? Hein, Yves nous parlait tout à l'heure de ces bouleversements, on les vit tous, etc., etc. Non, le monde ne va pas mieux, il y a autant de guerres, d'injustices, de révoltes, de despotes, etc. Non, le monde ne va pas mieux. Et pourtant, hein, il y a cette révolution numérique qui est extraordinaire. Jésus, par contre, lui, nous parle d'une autre connexion. Elle est gratuite, celle-là. Hein, elle marche 24 heures sur 24. On était parfois en Suède, en zone blanche. Alors là, on était avec nos engins, là. Rien. Heureusement qu'on avait une carte encore, les anciennes cartes. Prenez toujours une ancienne carte. Parce que des fois, Tom-Tom, hein, il nous plante. Et voilà. Et là, donc, cette révolution numérique, la connexion divine, la connexion avec Dieu, celle que nous devons, nous pouvons avoir chaque jour, en toute heure, en toutes circonstances, en tout lieu. Ce matin, qui que vous soyez, vous pouvez vous connecter à Dieu par Jésus-Christ. Il y a un verset, c'est Jérémie 33,3. Ça, c'était au temps du Minitel. Vous savez, on avait des codes comme ça. Hein. Et Jérémie 33,3, ça nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Vous voyez, ce matin, eh bien, invoquons le Seigneur. Et puis, Philippiens 4,6, également pour cette famille, mais pour chacun d'entre nous. Philippiens 4, 6 nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Hein, soyons connectés, soyons branchés avec le Seigneur, et nos vies, là aussi, bien, seront transformées. Allez, il en reste encore deux. Ça va, vous tenez le coup, hein? Autrement, on fera la suite l'année prochaine. Hein? C'est comme Vous savez, les épisodes rallongent dans les saisons 2, 3, 4, 5. Allez, une autre? Qui va nous faire découvrir une autre famille? Allez. Alors? Personne? Ah. Quel âge tu as? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Non, non, pas celle-là. J'en étais sûr que tu allais me faire une grosse bêtise. Puis on est grand, puis on fait des bêtises. Tiens, viens là. Allez, vas-y.
C'est famille Fiesta.
Ah, vas-y, bah comment? Comment? Oh. Ah.
C'est la fille? Ok.
Merci. La famille Fiesta. Alors là, c'est la fête à tous les étages, tous les jours. Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Alors, il y a les anniversaires, il y a les mariages, il y a même les enterrements. Enfin, tous les copains, les amis à la maison, c'est toujours bienvenu. Open bar, etc., etc. Juste une anecdote qui est vraie, parce que c'est la mienne. À l'époque où mes parents fréquentaient les assemblées donc sur Saint-Dié, il y avait encore des réunions le dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Et donc, avec mes copains, j'attendais qu'ils partent à la réunion du dimanche après-midi. Et là, j'invitais les copains l'après-midi pour vider le bar. Je savais que, de toute façon, il y avait les horaires qui... C'était la fête. Les parents étaient à l'église et les copains étaient dans le bar, donc la maison familiale. Je referme la parenthèse. Bien. C'était la fête. Ouais, depuis le non-su, hein, j'ai confessé mes péchés. Je leur ai confessé. En tout cas, y a un proverbe hein, qui dit « Mangeons et buvons parce que demain, ben, nous mourrons. » Alors, juste une question, une réflexion. Être un bon vivant ne fait pas de nous automatiquement un bon mourant. On dit, oh, c'est un bon vivant, oh, il aime la vie, etc. Mais on fait pas de lui automatiquement un bon mourant. Il y a des bons vivants qui ont peur de mourir. Et quand je connaissais pas Jésus, j'avais 18 ans, c'était la fête tous les week-ends, mais les nuits, c'était des nuits d'angoisse où j'avais peur de mourir. Il y avait toujours ces mêmes cauchemars qui revenaient. Dans la Bible, de l'expérience, waouh, c'est cool, hein, c'est la fête tout le temps à la maison, etc. On invite qui on veut, quand on veut, comme on veut, c'est extraordinaire. Il y a un exemple dans la Bible, hein, vous le connaissez, c'est de ce jeune homme. Il est parti. Hein, il a demandé sa part d'héritage avant l'heure, et puis il est parti, il a fait la fête. Ah, il s'est réjoui, ah, il avait des copains, des copines, il en a profité, il a tout dépensé, et puis ça a été un temps. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. Oui, c'est grave, hein. J'ai invité, je vais me faire inviter. Sauf que, bah, ça n'a pas fonctionné dans l'autre sens. Et tous ses amis, hein, qui étaient et qui profitaient de lui, eh bien, ne lui ont pas rendu l'appareil. Il s'est retrouvé, vous le savez, eh bien, dans une situation terrible, hein, puisque il est obligé d'abord de travailler, de garder des porcs, des cochons, et puis il n'avait rien à manger, sauf de la nourriture qui pouvait peut-être extraire un peu de temps en temps de ces cochons. Imaginez la déchéance. Alors, il va avoir quand même la bonne attitude. Il a dit, eh bien, je vais revenir vers mon père. Je vais revenir vers mon père. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui se disent, bah, pour l'instant, moi, c'est la fête, je pense qu'à m'amuser, etc. On verra ça. On verra ça plus tard, l'histoire avec Dieu. C'est ce que je me disais, moi, à 18 ans, justement. Je me disais, ben, écoute, Seigneur, puisque j'avais entendu un peu parler de Jésus à l'école du dimanche, je me disais, écoute, Seigneur, je fais un deal avec toi. Je fais ma vie comme je veux, quand je veux, comme je veux. Et puis, vers 75, 80 ans, si tu veux, là, en train de mourir sur un beau lit avec des draps blancs et un oreiller blanc, je te donnerai mon cœur. Et puis tu me prendras avec toi. C'était un bon plan, ça. C'était un bon plan. Sauf que à 20 ans, j'ai failli mourir dans un accident de voiture. Et ça, je n'avais pas prévu. Et là, Dieu m'a arrêté. Et alors, la fête, ça ne dure qu'un temps. Il y a quand même un proverbe dans Ecclésiaste 11,9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est ce que Paul dira également aux Corinthiens. En tout cas, ce matin, sachant que la famille Fiesta, eh bien, aura besoin, à un moment donné, eh bien, de faire une pause, d'arrêter de réfléchir. C'est pas ça le sens, de la vie. On le sait très bien, parce qu'on a besoin d'autre chose pour que nos cœurs soient contentés. Et puis, on termine avec la dernière famille. La voilà. Qui veut aller nous la faire découvrir, cette dernière famille. Bon, ça peut être maintenant un adulte, hein, soyez pas gênés, hein. Vous pouvez venir aussi, on ne dira rien. Ah, ça va bien, Jessica, en plus, cette famille. Vas-y, comment?
La famille Youpi.
Ah, la famille Youpi!
Là, je suis désolée.
Très bien. La famille, youpi! Ah, enfin! C'est la famille quand même qui est satisfaite, qui est heureuse de vivre. Malgré certainement des difficultés, des épreuves, hein, c'est pas une famille parfaite. Les membres de cette famille ont parfois des idées différentes. Alors on discute, on peut évoluer, on peut progresser. Il peut y avoir aussi des conflits dans cette famille. N'idéalisons pas même la famille Youpi, mais malgré tout, ces différences, les épreuves, eh bien cette famille, elle est satisfaite, elle est heureuse. Ils essayent de vivre en harmonie. Là où ils sont, dans leur société, dans leur lieu de travail, là où ils sont établis, dans leur quartier, ils essayent de voir un petit peu les besoins des autres, parce que eux-mêmes étant satisfaits, équilibrés, eh bien, ils pensent aussi aux besoins des autres. En Suède, un petit exemple, en France on ne voit pas ça, hein, mais vous avez des aires qui sont aménagées pour le pique-nique. C'est pas mal. Plusieurs tables, ça on voit en France, hein. Mais après, il y a le barbecue qui est là avec tous les ustensiles. Il y a la réserve de bois qui est là, qui est prête. Il y a même d'autres ustensiles. En France, à mon avis, le week-end d'après, il n'y a plus rien, hein. Tout a disparu. Mais là-bas, tout est à disposition. Tout est à disposition pour le bien-être de l'autre, le respect de l'autre, le bien-être de l'autre. Alors cette famille Youpi, elle a quand même un secret. Elle a un secret. C'est que, un jour, elle s'est dit, finalement, bien, on a besoin que quelqu'un vienne dans notre famille pour nous aider à vivre cette sérénité, à vivre cette paix intérieure, même s'il y a des difficultés. Et ils ont un jour invité Jésus. Ils ont invité Jésus. Il y a un beau texte d'Apocalypse 3:20 qui nous dit ceci. Eh bien, voici, je me tiens à la porte de ta famille, de ton foyer, et je frappe. Et celui qui ouvre la porte, eh bien, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et puis je souperai avec lui et lui avec moi. Notre frère Yves parlait du repas, hein, ce moment où on réunit la famille. C'est pas toujours évident, hein, avec les enfants qui ont des études, avec le mari des fois qui a des heures décalées, c'est pas toujours. Mais quand de temps en temps on peut réunir toute la famille, prendre du temps ensemble, waouh, c'est un moment aussi qu'on apprécie, qui vaut tout l'or du monde. Et Dieu est ainsi, il est pour la famille. Cette famille Youpi, elle a invité un jour Jésus dans son espace. Et Jésus est venu. Et Jésus est venu. C'était peut-être au départ la famille Patatras. C'était peut-être au départ la famille Fiesta, je ne sais pas. Mais Jésus est venu. Et il a changé le nom de cette famille en lui donnant le nom de la famille Youpi. C'est une formidable espérance que Jésus met aussi dans le cœur de cette famille, parce que Jésus leur dit, bien, vous serez tous avec moi dans mon royaume. Toutes les familles vont être réunies dans la présence de Dieu lorsqu'il viendra nous chercher. Alors on termine par le psaume 68, Alors ça dépend des versions, mais peut-être qu'on pourrait lire quelques versets du verset 1 jusqu'à au verset 7 ou 8, ça dépend des versions. Mais voilà ce qu'il est dit dans le psaume 68. Voilà, la machine a été plus rapide que l'homme. Ça, c'est le numérique. Aïe, aïe, aïe. Au chef des cœurs, psaume de David, que Dieu se lève. Et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis s'enfuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée légère qui se dissipe, comme la cire qui fond au feu, ainsi périssent tous les méchants par devant Dieu. Après la suite, alors les justes se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant leur Dieu, ils pousseront des cris de joie. Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées, il a pour nom l'Éternel, réjouissez-vous devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation, aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est lui qui donne aux prisonniers la joie, la liberté, seuls les rebelles sont confiné dans une région aride. Il accorde une famille. Voilà, bien, il y a la suite. Mais finalement, une autre version nous parle aussi de ceux qui sont solitaires, de ceux qui sont abandonnés. Et en fait, on pourrait dire que ce matin, à chacun d'entre nous, qui pouvons nous sentir parfois malheureux, haïs, voire honteux, on peut regretter parfois ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on est, et peureux peut-être d'avoir de la crainte. En tout cas, toutes celles et ceux qui font partie d'une de ces familles, eh bien, lorsque nous invitons Jésus au centre, il a le pouvoir de la changer, de la transformer, et de faire de nous, de notre famille, notre foyer, une famille youpie. Une famille youpie. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants, avant qu'on puisse continuer avec un chant, il me semble, de le bien-aimé, puis quelques annonces, mais de prier que le Seigneur ce matin bien puisse là aussi venir, s'installer et puis nous conduire. Et il y a peut-être des bien-aimés qui souffrent, qui se sentent là aussi concernés, bien Jésus est là ce matin. Amen. Pour remplir leur cœur d'espérance et de paix. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es pour la famille. Seigneur, tu es celui qui te révèle dans le cœur des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines, des oncles, toute cette grande famille. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin, pour ta fidélité. Nous prions, Père, pour peut-être des bien-aimés qui, aujourd'hui, se sentent isolés, haïs, meurtris, blessés, qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'être rassurés. Je te prie, Seigneur, de répondre à leur invitation, parce que nous savons que lorsque nous t'invitons, tu viens. Bénis, Seigneur, c'est bien aimé. Nous prions également pour les familles que nous représentons. Il y a aussi des sujets de prière, de douleur. Il y a aussi des combats, des maladies, des épreuves. Nous te prions pour que nous soyons des instruments de bénédiction. Nous avons besoin de familles solides. Nous avons besoin de familles, Seigneur, établies sur le roc, sur le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, pour que tu t'y révèles dans le nom de Jésus. Nous prions également pour notre nation qui a besoin de ta grâce. Seigneur, toutes ces familles que nous côtoyons, qui sont détruites, qui sont humiliées, qui sont bafouées, nous prions pour que le peuple de Dieu soit une source de lumière, une source de vie dans le nom de Jésus. Oui, tu donnes une famille ce matin. Celui ou celle qui se confie en toi, tu rassures, tu guéris, tu sauves, tu pardonnes. Et tout cela, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Je crois que pendant le chant, c'est ça. D'accord. Il y aura donc une offrande spéciale pour vous. Rappelez que nous aurons donc un bon moment d'évangélisation donc au mois d'octobre. Donc j'avais demandé à Marie-Jo et puis j'avais demandé à Marie-Jo. Ah ben, vas-y. Bon, plus ils sont, plus il y aura. Voilà. Mettez-en encore 5 ou 6, il y en aura plus. Vas-y, prends le grand. Vous avez compris, donc il a pris le grand. Et puis, y aurait-il d'autres annonces? Je sais que Viviane, elle est là, Viviane? Oui, tu as une annonce, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que vous aimeriez faire ce matin, profiter de ce moment? On est en famille, donc on va en profiter. Si vous avez d'autres annonces, on va le faire avant de conclure par un chant.
Bonjour à tous. André, ça va? C'est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ouais. Oui, bonjour à tous. Je fais une annonce au nom de l'école Emmanuel, qui va lentement reprendre et qui aura un temps de ménage. On va remettre en forme les locaux. Donc, si jamais vous avez envie de soutenir cette œuvre, vous êtes bienvenus de donner 1 heure, 2 heures, entre demain, lundi et mercredi matin, de 9h à 13h. Il y aura toujours une permanence pour que vous puissiez venir donner votre petit coup de main, voir les dernières nouvelles de l'école et puis juste repartir dans votre journée. Un grand merci. Si jamais vous avez besoin de détails, on est disponible là. Que ce soit Michel, Yves au niveau de l'Assemblée de Dieu, Sandra au niveau de l'ABN, Eric et moi pour la ruche ou ceux que vous connaissez qui sont impliqués. Toute aide est vraiment bienvenue. On fait appel aussi aux parents, mais pendant les vacances, c'est toujours plus difficile de les avoir. Un grand merci. Bonne journée.
Merci.
Concernant la ruche, deux rappels. Cette semaine, notre pasteur est en vacances. Merci de le laisser tranquille et de t'adresser à d'autres du collège pastoral. Et dimanche prochain, il y aura le culte avec le revoir à Raël et Denis, suivi d'un temps d'apéro. Alors merci à plusieurs de prendre des choses à manger, les boissons seront offertes. Et ça la concerne pas que la ruche, mais aussi d'autres églises. On peut aussi penser, garder dans la prière le camp scout. Ils seront sur la route cet après-midi, ils rentrent. Il y a un gros car, il y a beaucoup de voitures individuelles, qu'ils soient aussi protégés.
Amen.